Il était sur son char.
Amateur, propagande.
Il n'y a pas d'armes. L'art combat ou sert la cause prolétarienne.
Plein d'inardeur, noble.
Journal vivant, revue politique.
Construction, obéir à sa voix.
Oui, c'est un malade, hein. C'est un vrai dingue. Il est capable de tout faire.
Imiter son silence.
Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Radio Canu 102.2. Vous êtes au Théâtre de la Gamelle, votre émission de théâtre radiophonique tous les vendredis en direct de 13h à 14h. Et aujourd'hui, avec nous en studio, nous avons Amandine Vincent, Caroline Chao et Anaïs Sintas à la technique et moi-même Pauline Thiraud à l'animation, également à la lecture. Voilà, on vous a préparé aujourd'hui des lectures des pièces courtes de Daniel Keane. Il a écrit deux recueils de pièces courtes, deux tomes, et on va vous lire une pièce de chacune sur les thématiques de l'humain, du souvenir, de l'histoire personnelle et puis aussi la question de la mort. Voilà. Daniel Keane, pour dire, c'est un auteur contemporain qui est né en 55 à Melbourne, en Australie. Voilà. Il écrit pour le théâtre, le cinéma, la radio, et il a travaillé aussi au théâtre comme acteur et metteur en scène. Et les textes qu'on va vous lire ont été traduits par Séverine Magua. Voilà. Et nous allons commencer avec la première pièce, Marie et Marguerite.
Deux septuagénaires, Marie et Marguerite. Lieu, l'action de la pièce se déroule dans une maison de retraite, dans la chambre de Marguerite. Sa chambre ressemble à celle qu'on trouverait dans un hôpital privé, agrémentée néanmoins de quelques touches plus personnelles, un tableau ou deux accrochés au mur et peut-être un couvre-lit aux couleurs vives. Son lit est un lit d'hôpital standard. Il y a une grande fenêtre donnant sur un petit jardin, un placard dans un coin, un fauteuil près du lit et une petite salle de bain attenante. La porte de la chambre donne sur un long couloir. Nuit, obscurité.
Marguerite, Marguerite. Marguerite, tu es réveillée ?
Non, je dors à point fermé.
C'est moi, Marie.
Tiens donc.
Moi non plus, je n'arrive pas à dormir.
D'habitude, je n'ai aucun mal à dormir.
Aucun ? T'as de la chance.
J'ai toujours été pareil. Sitôt que ma tête touche l'oreiller, je m'endors.
Marguerite allume sa lampe de chevet. Elle se redresse sur son lit, parfaitement réveillée, ses longs cheveux blancs étalés sur ses oreillers. Elle porte une chemise de nuit rouge. Marie se tient dans l'ombre à côté de la porte. Elle porte une longue chemise de nuit jaune et des chaussons de nuit violets.
Je peux m'asseoir ?
Fais comme chez toi.
Marie s'approche et s'assied dans le fauteuil, à côté du lit.
Je voulais te demander une chose.
Celle que tu m'as demandée hier ?
Qu'est-ce que je t'ai demandé hier ?
Tu voulais savoir si, oui ou non, le pigeon femelle accueillait avec joie les avances du mâle.
Ah bon ?
Oui.
Et tu as répondu quoi ?
Que je n'en savais rien. Depuis que tu me l'as demandé, plus moyen de penser à autre chose. Donc, j'ai repassé dans ma tête mes divers souvenirs de pigeons, mes observations de leur comportement et ainsi de suite.
Et tu en as conclu quelque chose ?
Je pourrais au mieux hasarder l'hypothèse que le pigeon femelle tolère les avances du mâle, mais tolérer peut-il s'interpréter comme accueillir avec joie ? Je crains que les indices soient peu concluants.
C'est dommage.
Je sais. Mais j'ai fait de mon mieux. Je ne suis pas une naturaliste, après tout.
Non.
Non.
Je me suis promenée dans le jardin aujourd'hui.
Oui. Je t'ai vue depuis ma fenêtre.
De quoi j'avais l'air ?
Tu faisais figure décelée. Tu semblais traîner les pieds plutôt que de marcher. Tu étais un peu voûtée, comme si tu portais un grand fardeau. Tes cheveux étaient ébouriffés par le vent. À un moment donné, tu as tendu le visage vers le soleil. Tes yeux étaient fermés. Après quoi, tu es allé te soulager derrière ces buissons.
Il fallait bien.
Je comprends.
Marguerite.
Oui.
Je peux te poser une question?
Est-ce la question que tu avais l'intention de poser dès le départ quand tu es entrée?
Je n'en suis pas bien sûre. Ça se pourrait. Mais ça pourrait aussi être une autre question.
Auquel cas? La première te reviendra peut-être à l'esprit plus tard.
Oui, ça se peut.
Il ne faut jamais perdre de vue ses premières intentions, aussi vagues soient-elles.
Bien sûr.
Nous devons procéder pas à pas, Marie. Sans quoi ce sera le chaos.
Bien sûr.
De l'ordre en toutes choses, tel doit être notre souci premier.
Je suis bien d'accord.
Tant de gens se perdent dans le tumulte de leur vie. Leurs allées, leurs venues, leurs veilles et leurs sommeils, leurs aspirations et leurs déceptions, le fait qu'ils naissent et qu'ils meurent. Chaos que tout ça.
Chaos.
Tu peux poser ta question.
Merci.
Marie croise les jambes, puis les décroise. Elle croise les bras, s'éclaircit la voix, décroise les bras. Elle se penche en avant, se repenche en arrière. Elle croise, puis décroise à nouveau les jambes.
Qu'est-ce que tu fais?
J'essaie de trouver la bonne posture.
Posture?
J'ai constaté que si j'arrive à adopter la bonne posture qui convient, j'ai les idées beaucoup plus claires.
C'est singulier.
C'est pourtant vrai.
Puis-je émettre une suggestion?
Mais je t'en prie.
Essaie debout pour voir.
Tu crois?
Non, j'en suis certaine. Comment te sens-tu?
Pas mieux, mais pas pire.
Marche donc un peu. Trouve ton équilibre.
Je suis déséquilibrée.
Ah, tu as l'air un peu déséquilibrée.
J'étais loin de me douter.
Marie marche autour de la chambre.
Dis-toi que ta tête est un ballon qui flotte et que ta colonne vertébrale est un bout de ficelle attaché au ballon.
Un bout de ficelle?
Oui.
Et mes pieds?
Quoi, tes pieds?
Qu'est-ce qu'ils sont?
Ce sont tes pieds. Plante-les fermement sur le sol. Ils sont le piédestal sur lequel tu t'ériges.
Je suis toujours un ballon?
Ta tête est un ballon. Tes pieds sont un piédestal, fermement campé sur le sol. Ta tête flotte. Ta colonne vertébrale est aussi droite qu'un bout de ficelle.
Marie se fige en une posture pour le moins curieuse.
Non, tu n'y es pas du tout.
Je me sens plutôt coincée.
Je te montrerais volontiers moi-même si je pouvais. Mais comme tu sais...
Tes jambes.
En ruine.
Oui.
Des os comme de la craie. Des veines comme des cordes. Des muscles comme des harengs sorts. Des tendons comme des...
Comme des...
Il est difficile de décrire le genre de... décrépitude dont je parle.
Bien sûr.
Je pense que tu devrais te rasseoir.
Oui, peut-être. Ce serait mieux.
Respire à fond. Calme-toi.
Ça fait des années que je n'ai pas respiré à fond. Mes poumons, c'est du verre.
Nous avons tous nos limites. Peut-être devrais-tu simplement essayer de poser ta question.
Oui. Oui, peut-être je devrais.
Laisse de côté toute cette histoire de posture pour le moment.
Bien sûr. Merci Marguerite.
Poursuis donc.
Le cornichon est-il un légume?
Le cornichon?
Si je demande, c'est que j'ai beaucoup pensé aux tomates ces temps-ci. N'est-il pas vrai que la tomate n'est répertoriée ni comme un fruit, ni comme un légume, mais comme une herbe?
Tout c'est possible.
Je suppose que là où je veux en venir, c'est qu'il semble y avoir tout un tas de choses en ce bas monde qui sont ni une chose, ni une autre, ni même une troisième, mais qui existent plutôt hors de toute classification, comme pour s'en moquer.
Mmh.
C'est à ça que j'avais beaucoup pensé ces temps-ci.
Tu es très lucide ce soir, Marie.
Je crois que me rasseoir a été radical. Tu vois, j'imagine souvent que mon cerveau est devenu tout branlant dans mon crâne, qu'il est comme, qui dirait, sorti de ses gonds, et que pour penser quoi que ce soit, il faut que je trouve la bonne position pour que mon cerveau soit bien d'aplomb dans mon crâne et pas en train de valser comme une balle dans un chapeau.
Marie.
Oui.
Ces idées que tu as sont un peu inquiétantes.
Oui, oui. Elles me causent parfois des ennuis, sans fin. Mais je ne peux pas m'empêcher de les avoir. Elles surgissent dans ma tête. Paf ! Comme ça. Je suis souvent aussi vide et creuse qu'un chien mort et puis... Paf ! Me voilà soudain pleine d'idées sur toutes sortes de choses. Les dents, par exemple. L'idée m'est venue que les dents...
Non ! Ça suffit. Je ne peux pas tout gérer en même temps. De l'ordre en toute chose, Marie. Nous devons procéder pas à pas.
Bien sûr.
Je pense que je devrais prendre des notes. Pourrais-tu aller me chercher mon écritoire dans le placard ?
Bien sûr.
Marie va jusqu'au placard près de la porte. Elle en sort un petit coffret noir. Elle revient vers le lit avec le coffret et le place sur les genoux de Marguerite. Marguerite ouvre le coffret et en sort une paire de lunettes, du papier et un stylo. Elle referme le coffret, pose le papier sur le couvercle. Elle chausse les lunettes.
Nous allons pour l'instant oublier les pigeons.
Les pigeons?
Tu ne te souviens pas des pigeons?
Peut-être.
Non. Quoi qu'il en soit, nous les oublierons.
Comme tu préfères.
Et commencerons par les tomates.
Oui, les tomates.
Marguerite commence à écrire. Marie marche autour de la chambre. Elle s'arrête près de la fenêtre.
Quand tu m'as vue dans le jardin, aujourd'hui, tu m'as trouvée comment? Je veux dire, y avait-il en moi quelque chose de particulier qui t'ait frappé? Je veux dire, est-ce que j'avais l'air de quelqu'un qui serait en train de mourir?
Tu es en train de mourir, Marie?
Oui, je crois bien.
Ah! Tu es en train de mourir de quoi, d'après toi? Toute personne meurt de quelque chose.
Je sais, sauf que dans mon cas, je ne sais pas ce que c'est. Mais j'aimerais bien savoir.
Quand je t'ai vue, aujourd'hui, j'ai vu une vieille femme dans un jardin.
Marie demeure immobile près de la fenêtre. Marguerite pousse son écritoire sur le côté.
Va chercher mon fauteuil, Marie.
Marie s'éloigne de la fenêtre, elle fait des yeux le tour de la chambre...
Il est où?
Dehors, dans le couloir. Je ne supporte pas de voir cet engin.
Marguerite sort tant bien que mal ses jambes de sous ses couvertures. Elle parvient à s'asseoir au bord du lit. Marie revient, poussant un fauteuil roulant.
Va falloir que tu m'aides.
Marie pousse le fauteuil roulant tout près du lit. Faire passer Marguerite du bord du lit au fauteuil roulant n'est pas une mince affaire et prend un certain temps. Quand Marguerite est enfin assise dans le fauteuil roulant, les deux femmes sont à bout de souffle. Marie s'effondre au bord du lit. Oh.
Oh. Quand je suis née, ma mère a acheté un énorme landau. C'était une espèce de landau à l'ancienne en osier avec d'énormes ressorts et d'immenses roues à rayons. Oh. Tout au fond de cette espèce de... Oh. Bateau caverneux, je devais paraître aussi petite qu'une puce. Je me souviens que je regardais le ciel là-haut. C'était comme si j'étais couchée au fond de ma putain de tombe. Et me voilà, de nouveau montée sur roue, mais sans défense et toute ratatinée. J'ai l'impression de rapetisser chaque jour un peu plus. On finira par m'enterrer dans une boîte à chaussures.
Marguerite fait rouler son fauteuil jusqu'à la fenêtre et regarde au dehors.
Quel petit jardin merdique. Personne n'en prend soin. Rien n'y pousse, à part des touffes de mauvaises herbes. Il n'y a pas de vie. Voilà longtemps que l'oiseau a mangé l'araignée et que le chat a mangé l'oiseau.
Et il est où le chat maintenant?
Monté au ciel avec une souris.
Marie quitte le lit et rejoint Marguerite à la fenêtre.
J'imagine que j'ai vécu assez longtemps.
Personne jamais ne vit assez longtemps. Tu ne devrais vraiment pas ruminer ça, Marie. Autant te demander pourquoi tu es née que de t'inquiéter de quand tu mourras.
Tu ne t'es jamais demandé, toi, pourquoi tu étais née ?
Bah, pourquoi devrais-je m'embarrasser des erreurs de mes parents ?
Tu n'as jamais eu d'enfant, Marguerite.
Bon, pas que je sache.
Les miens vivent loin, très loin. Ils m'envoient des cartes postales quand ils voyagent. Ils voyagent très souvent. Ils voyagent souvent ensemble. Ils ont toujours été proches. Isabelle et Michel. Ils vont dans des pays dont je n'ai jamais entendu parler.
Quel... énergie de leur part.
Tu n'as jamais voulu d'enfant ?
Oh, de temps en temps, quand j'étais jeune, j'éprouvais une espèce de frémissement malvenu dans le bas-ventre. Bon, généralement l'été, quand je me baignais. L'océan avait quelque chose de... Je crois que c'était l'immensité de la chose qui me mettait des idées de maternité dans le crâne. Les marées, tout ça... Le va-et-vient des vagues, le ressac, les poissons, tout ça...
Je vois.
Un jour, alors que j'étais encore enfant, je ne me souviens plus où, j'ai vu trois petits bébés couchés côte à côte sur un lit. Ils m'ont fait penser à des sardines.
J'aime bien les sardines.
Oh, j'ai toujours eu horreur de ça.
Des sardines et du pain frais.
C'est bien simple. Je n'ai aucun goût pour les fruits de la mer.
Elle fait rouler son fauteuil de manière à s'éloigner de la fenêtre.
Nous nous laissons distraire par tout ce bavardage sur les enfants et les poissons. Tu es, apparemment, en train de mourir.
Oui, c'est comme ça que je me sens.
Quelque chose de précis t'aurait-il alerté sur ton état terminal ? Commence par le commencement. Les tout premiers signes.
Eh bien, je...
Je devrais prendre des notes. Va chercher mon écritoire.
Bien sûr.
Alors... je vais entamer une nouvelle page. Nous reviendrons aux tomates plus tard.
Les tomates ?
Tu ne te souviens pas des tomates ?
Peut-être.
Bon, peu importe. La mort de Marie, les premiers signes.
C'est très dur de savoir par où commencer. Il y a certaines choses qui s'insinuent en toi comme ça, sans que tu le saches. Je veux dire, il est tout à fait possible d'être en train de penser à quelque chose sans vraiment savoir que tu y penses. Ou en train de faire quelque chose d'ailleurs. Et il est parfaitement possible d'avoir conscience d'une situation sans véritablement savoir que tu en as conscience. Le grand problème quand il s'agit de savoir quelque chose, surtout quand et où ce quelque chose a commencé, c'est de savoir que tu le sais.
Marie...
Mais bien sûr, il y a des choses que tu sais, que tu connais, et tu sais que tu les connais. Mais tu ne veux pas les connaître, tu ne veux rien en savoir du tout. Et donc, c'est comme si tu ne les connaissais pas. Et autant ne pas les connaître parce que tu t'interdiras de les connaître. C'est ça. Tu te l'interdiras. Et il n'y a rien au monde qui te fera les connaître. Personne n'est rien au monde. Personne ne peut te dire que tu sais. Tu refuses de les croire, ceux qui te le disent. C'est tout. Tu refuses de croire un seul mot de ce qu'ils te disent. Et tu les rejettes. Tu les repousses. Tu rejettes leur amitié et leur aide. Et même leur amour. Parce qu'il y a des gens qui peuvent t'aimer. Et tu pourrais les aimer, en fait. Mais quand il s'agit de savoir quelque chose que tu ne veux pas savoir, même si tu le sais déjà, tu peux te montrer tout à fait impitoyable et cruel. Oui, cruel aussi. Envers ceux que tu aimes, qui t'aiment. C'est possible, tu t'en veux à mort. C'est toujours possible de nier ce que tu sais et de nier que tu aimes ou que tu es aimé. Et tu t'en veux à mort. C'est toujours possible. Ça l'a toujours été.
Marie.
Oui.
Ce n'est pas la peine de te traiter avec malveillance.
Avec malveillance.
Oui.
J'étais malveillante là.
Nous nous sommes tous montrés incapables d'aimer quand nous aurions pu en être capables. nous ne pouvons pas toujours être pleinement nous-mêmes. Nous ne pouvons pas toujours nous connaître, ni même savoir ce que nous savons. Nous sommes souvent des mystères, Marie. Surtout à nous-mêmes.
Oui, oui, bien sûr.
À chacun de faire ce qu'il peut. De l'ordre en toutes choses, voilà sur quoi doivent porter nos efforts.
Je vais essayer de recommencer.
Je t'en prie, fais.
Tu es très patiente.
C'est la seule vertu qui me reste. Il y en avait d'autres, mais j'en avais de moins en moins l'usage à mesure que les années passaient. Mourir patiemment sera la récompense de ma patience. Une perspective aussi minable soit-elle, reste une putain de perspective.
Bien sûr.
Donc, puis-je en revenir à ta mort ?
Bien sûr.
Peut-être devrions-nous commencer par tes symptômes.
Mes symptômes ?
Oui, les manifestations de l'approche de la mort. Il y a forcément des signes. À moins d'avoir la chance de passer sous un train ou de tomber à pic du haut d'une falaise, il y a forcément des signes de l'approche de la mort. Par exemple, tu as quoi comme douleur ?
Oh, j'ai toutes sortes de douleurs.
Bien, c'est un début. Es-tu en train de devenir aveugle ou sourde ? Es-tu devenue incontinente ? As-tu des palpitations d'une nature ou d'une autre ? Y a-t-il des moments durant le jour ou la nuit où tu sens la vie s'écouler de toi, telle la marée qui se retire du rivage, telle la fleur qui se fane, le tissu qui s'effiloche, le soleil qui se couche, le sable qui passe dans le sablier, la pomme pourrie qui... pourrie, la bougie qui coule, etc.
Eh bien, il y en a tellement, j'ai l'embarras du choix.
Y a-t-il au moins un qui te parle ?
Aucun ne se distingue plus que les autres.
Mais tu comprends le concept d'ensemble ?
Oh oui, certes, oui. Je n'ai aucun problème avec ça.
Peut-être devrions-nous revenir à tes douleurs.
Oui, peut-être, ce serait mieux.
Douleurs les plus aiguës.
Ce serait mes pieds. Ils me font souffrir du matin au soir, surtout par temps froid. Pas moyen de m'endormir si j'ai froid aux pieds. Tu n'as pas froid aux pieds, toi ?
Moi, je n'ai aucune sensation dans les pieds.
Aucune.
Ah, rien ?
Quel bonheur.
Bon, bah, pour toi, peut-être, mais pour moi, c'est un supplice. Je serais prête à tout donner, presque tout, pour avoir de nouveau froid aux pieds, rien qu'une fois.
On ne peut donc rien y faire.
On a tout essayé. On a mis en œuvre tous les traitements connus de la médecine, mais peine perdue. Mes pieds ont connu l'enfer, mais ils n'ont réagi à rien. Ils sont comme deux bouts de bois.
Oh, misère.
Oh, bah, estime-toi heureuse d'avoir froid aux pieds, Marie, et de souffrir. La douleur est un signe de vie. Peut-être bien le premier signe et le dernier.
Mon grand-père est mort d'avoir eu froid aux pieds.
Pardon ?
C'est une histoire que mon père racontait souvent. Son père est rentré du travail un jour et il travaillait à la laiterie du pays. Il est rentré chez lui et il a dit à ma grand-mère qu'il avait froid aux pieds. Puis il a eu froid aux jambes. Elle l'a mis au lit. On a envoyé mon père, il avait dans les 12 ans à l'époque, chercher le médecin. Le médecin n'était pas bien loin, à quelques rues de là, pas plus. Mon père a couru du plus vite qu'il a pu. Le médecin a dit qu'il passerait sans tarder. Mon père est revenu à la maison à toutes jambes, mais le temps qu'il arrive, son père était mort. Le froid qui avait attaqué les pieds de son père s'était propagé depuis ses jambes à son ventre, jusque dans sa poitrine. Puis il a eu froid au visage et il s'est mis à claquer des dents. Et puis ses yeux ont soudain été tout vides. Et il était mort. Comme si, petit à petit, il s'était rempli d'eau froide. Depuis qu'on m'a raconté cette histoire, j'ai toujours envisagé la mort comme quelque chose de froid, de terriblement froid. Si ça se trouve, ça n'a rien à voir avec la douleur.
C'est pourtant par la douleur, Marie, que nous commencerons. On laisse de côté tes idées préconçues. Toute mort est unique. Sauf si le hasard veut que tu te trouves pulvérisé par une bombe ou carbonisé dans un accident d'avion. J'imagine que tous ceux qui meurent dans ces conditions meurent tous pareils, en une fraction de seconde. Mais nous ne parlons pas là de ce genre de mort, si ?
Je ne pense pas.
Non, la tienne serait plutôt du genre à traîner en longueur.
Oui, sans doute.
Même s'il se pourrait que tu tombes raide morte d'un instant à l'autre, comme nous le pourrions tous.
Bien sûr.
Un vaisseau sanguin pourrait éclater dans ton cerveau.
Bien sûr.
Il se pourrait que tu fasses une crise cardiaque majeure, que rien n'aurait laissé prévoir.
Mmh.
Une attaque. Il se pourrait que tu t'écroules et que tu sois morte avant de toucher terre.
Oui.
Tout est possible. Mais nous devons cheminer pas à pas. Nous devons nous attacher aux circonstances présentes en nous gardant de spéculer sur ce que l'instant suivant pourrait nous réserver. Spéculer ainsi serait relâcher notre emprise sur le présent. Or, le présent est ce à quoi nous devons nous accrocher. L'état actuel de ta mort est ce qui doit nous préoccuper et nous préoccuper exclusivement. Sans quoi, nous allons nous égarer et tous nos efforts auront été pour rien.
Tu es pleine de bon sens, Marguerite.
Mais je l'espère bien.
Tu l'es toujours.
Bon, où en étions-nous ?
La douleur, je pense.
Oui, la douleur. Les différents types de douleurs et leurs fréquences. C'est par là que nous devons commencer. Les pieds, c'est noté. Nous allons procéder par ailleurs en remontant. Comment vont tes jambes ?
Eh bien, évidemment, comparé aux tiennes...
On ne les compare pas aux miennes. Selon tous les critères existants, mes jambes ne sont en rien des jambes. Ce sont peut-être des vestiges de jambes. De même qu'un étron pourrait être considéré comme étant le vestige d'un bon repas.
Pauvre Marguerite.
Oh, la pitié est une chose que je ne réclame ni ne désire.
Je te demande pardon. Seulement, quand je pense à tes jambes...
N'y pense pas. Pense aux tiennes. Laisse-moi les regarder.
Les regarder ?
Marie, quand on s'occupe de la mort, on ne peut pas se préoccuper de pudeur.
Marie soulève lentement sa chemise de nuit... Juste au-dessus des genoux. Marguerite s'approche un peu, faisant rouler son fauteuil. Elle examine les jambes de Marie.
Oh. J'ai eu des jambes comme ça un jour.
Elles sont plutôt maigrichonnes.
Bon, les jambes de flamant rose le sont aussi, et pourtant elles le servent admirablement. Fines comme des roseaux, ou aussi épaisses que des tubercules qui auraient trop poussé, ce n'est pas la forme des jambes qui compte, mais leur capacité à endurer.
Ma mère m'appelait toujours son petit oiseau. Marie, tu manges moins qu'un moineau ? Elle disait toujours.
Pour survivre, un moineau doit chaque jour manger au moins l'équivalent de sa masse pondérale.
Vraiment ?
Il semble donc tout à fait raisonnable pour un être humain de manger moins qu'un moineau.
Je ne sais pas combien je pèse.
Bah, comme a dit le condamné, une longueur de corde m'enseignera le poids de mon cul.
Il a dit ça ?
Il paraît que oui. Bon. Peut-on reprendre l'inventaire de tes douleurs ?
Bien sûr. Très peu de douleurs dans les jambes.
Marguerite inscrit l'information. Elle continue de prendre des notes pendant tout ce qui suit.
Il y a de la douleur, bien sûr, mais pas autant que dans les pieds. Loin de là. Peut-être moitié moins. Ou un peu moins. Une autre forme de douleur, bien sûr. Pas tant une souffrance qu'une espèce... Des lancements tout à fait brusques, dans les genoux surtout. Faut-il estimer qu'ils font partie des jambes ou sont-ils à part ?
Nous estimerons qu'ils font partie des jambes.
Très bien.
Ou alors nous pourrions procéder articulation par articulation.
Ça paraît bien fastidieux.
Bon, c'est possible. Mais ce qui est à faire, est à faire.
Mes hanches me tracassent beaucoup.
Tracasse, précise.
Eh bien, c'est comme si elles avaient besoin d'huile.
Besoin d'huile ?
L'idée m'est venue plus d'une fois que le corps humain n'est rien de plus qu'une machine. Des fois, je me dis, Marie, tu n'es rien qu'une vieille machine. Tu as besoin d'huile. Bien sûr, si j'étais une machine, on pourrait me réparer.
Marguerite met de côté son papier et son stylo.
Ma chère. Nous n'arriverons jamais à rien si tu te compares à une machine. Tu n'es pas une machine, tu es un être humain.
Oh, je sais, mais...
Pas de mais qui tiennent.
Mais...
Nous devons nous accrocher à notre humanité, comme le lichen au rocher. C'est tout ce que nous avons.
Mais notre humanité, nous l'avons sans même y penser. Ça aide des fois de penser à soi un peu différemment.
Je ne vois pas en quoi ça aiderait.
On y gagne une perspective nouvelle.
En aurais-tu besoin, Marie ?
Parfois, j'ai l'impression que oui. J'en ai tellement marre de moi.
On ne peut rien y faire. J'en ai perdu la tête de moi depuis déjà pas mal de temps.
Donc, comment tu t'en sors ?
M'en sors de quoi ?
Comment tu avances ?
Ouais, je n'avance pas.
Non ?
Je suis au point mort. Et je m'en félicite. Toute cette histoire qui veut qu'on avance ou qu'on n'avance pas n'est qu'un tissu d'ânerie. Où veux-tu que j'aille au juste ? Où veut-on que je n'aille pas ?
Franchement, j'en sais trop rien.
Mais personne ne sait. La seule vie que tu puisses avoir est la vie que tu es en train de vivre sur le moment. Tu ne peux pas avoir ni passé ni avenir. Ces moments sont révolus ou pas encore advenus. Que tu vives 10 ou 100 ans, c'est pareil. La seule vie que tu puisses avoir, qui est aussi la seule vie que tu puisses perdre, c'est la vie que tu es en train de vivre là, maintenant.
J'imagine, pourtant, une espèce d'avenir.
Tu peux imaginer tout ce que tu veux.
Marie est allée à la fenêtre et se tient là, regardant au dehors.
J'imagine que j'irai me promener dans le jardin demain.
Oh, bon, je peux imaginer la même chose, mais je ne ferai pourtant pas.
J'aimerais pourtant bien. Et je pense que je pourrais.
C'est possible.
Tu penses que je le ferais ?
Oh, je sais pas.
Je suis en train de mourir.
Les indices dont je dispose pour l'instant sont un peu minces. Tu as des douleurs dans les pieds, les jambes et les hanches. Mais qui sait ? Cela suffit peut-être.
Dit comme ça, ça ne fait pas beaucoup.
Les gens meurent pour un oui ou pour un non. Moi, je connaissais un homme qui est mort en nouant ses lacets. Bah, il paraissait en parfaite santé jusque-là.
C'était qui ?
Un ami de mon père.
Tu ne parles jamais de ton père ?
Il le faut.
Les gens le font.
Je suis pas obligée. Si ?
Non, bien sûr que non.
Mais... Il s'est écroulé alors qu'il faisait du vélo. Bah, c'était un grand cycliste. Il avait des jambes magnifiques. Il était sorti faire sa promenade du petit matin, comme d'habitude. Et quelque chose, un vaisseau dans son cerveau, a éclaté. Paf ! Comme ça. Et il était mort.
Le vélo est un sport merveilleux.
Oui, en effet.
Merci de m'avoir raconté ça.
Bah, ce qui est fait n'est plus à faire.
Tu parles très rarement de toi.
Oh, ne sois pas bête, Marie. Je parle de moi à longueur de temps.
Mais tu es attentive aux autres.
Oui. À toi, parce que tu l'exiges.
Je ne le fais pas pour t'embêter. Je ne le fais pas exprès.
J'aimerais que tu arrêtes d'être aussi...
Aussi quoi ?
Aussi...
Oui ?
Confondu en excuses.
Je ne le fais pas exprès. Je sais que je suis plutôt craintive et que je suis peut-être un peu timide.
Rien de honteux à cela.
J'ai toujours trouvé difficile de me faire des amis.
Ça, je vois.
Tu le vois.
C'est assez flagrant. Mais tu es toute pâle, Marie.
Moi ?
Voudrais-tu t'allonger ?
Je me sens fatiguée, mais je n'ai pas sommeil.
Je comprends. Allonge-toi sur le lit.
J'ai eu des amis, bien sûr. Je me souviens de tous et de tous les moments qu'on a passés ensemble. L'avenir qu'on imaginait pour soi et pour les autres. Mais tu vois, j'ai toujours eu peur.
De quoi ?
De tout.
Mais personne n'a peur de tout.
Alors de la plupart des choses.
Sois plus précise.
Il le faut ?
Ah, si tu veux que je prenne des notes.
Oui, s'il te plaît.
Alors, il me faut des exemples précis. De quoi as-tu peur ? Rien n'est trop anodin pour ne pas être signalé.
Je sais à peine par où commencer.
Peu importe par où tu commences. Une chose en entraînera une autre. Quelque chose t'a-t-il effrayé aujourd'hui ?
Pas spécialement. Mais j'ai quand même eu peur.
Sois aussi précise que possible.
Je me suis parfois dit que peut-être je m'étais éteinte sans m'en apercevoir, dans mon sommeil peut-être, et que j'erre au hasard dans une espèce d'au-delà, tout en me sentant bien vivante. C'est très déroutant. Et je me demande, quand une personne meurt, est-ce qu'elle s'en aperçoit ? Sait-elle que c'est en train de se passer ?
Cela, bien sûr, dépendrait des circonstances de sa mort. Toute mort, Marie, est spécifique.
J'imagine bien.
Et tu n'es pas morte ?
Non, pas encore.
Moi aussi, Marie, je suis fatiguée. Mais non, je n'ai pas sommeil.
Marguerite tend le bras et caresse les cheveux de Marie.
Quand je t'ai vue dans le jardin aujourd'hui, j'ai vu une vieille femme qui passe son temps à poser des questions sur les pigeons ou les cornichons ou sur ces quantités de choses ridicules et puis qui oublie les questions qu'elle a posées. J'ai vu une femme qui a des enfants qui vivent loin d'elle et lui envoie des cartes postales de pays où elle n'a jamais été et où elle n'ira jamais. Une femme que sa mère comparait à un petit oiseau.
Oui, elle le faisait. Elle le faisait toujours.
Cette femme me réveille au milieu de la nuit, toutes les nuits. En fait, maintenant je l'attends. J'éteins ma lumière et je fais semblant de dormir, mais je l'attends.
Je sais bien que tu m'attends. Oui, je sais.
Marguerite fait rouler son fauteuil jusqu'à la fenêtre. Elle regarde dehors.
Nous parlons de la faiblesse, de la douleur et de la mort. Sa mort qui est encore à venir, la mort d'autres gens dans son passé. Nous regardons par cette fenêtre un petit jardin merdique dont personne n'a cure. Nous sommes seules, toutes les deux. Nous avons un peu peur, mais rien qu'un peu.
Un petit peu.
Il n'est pas un être humain au monde qui n'imagine davantage son passé qu'il ne s'en souvient. Mais elle et moi essayons au moins d'être réalistes quant à l'avenir. Un avenir que nous n'avons pas. Nous vivons dans l'ici et le maintenant, à nous demander comment nous mourrons. N'est-ce pas, Marie ?
Marguerite fait rouler lentement son fauteuil jusqu'au chevet du lit. Elle tend le bras et caresse de nouveau les cheveux de Marie.
Dors, petit oiseau. Demain est un autre jour.
Oui, Marguerite, ce sera un autre jour.
Les vieux ne parlent plus, ou alors seulement parfois du bout des yeux. Même riches, ils sont pauvres, ils n'ont plus d'illusions et n'ont qu'un cœur pour deux. Chez eux, ça sent le thym, le propre, la lavande. Et le verbe d'antan, que l'on vive à Paris, on vit tous en province, quand on vit trop longtemps. Est-ce d'avoir trop ri que leur voix se lézarde, quand ils parlent d'hier, d'avoir trop pleuré que des larmes encore leur perlent aux paupières. Et s'ils tremblent un peu, est-ce de voir vieillir la pendule d'argent qui ronronne au salon, qui dit oui, qui dit non, qui dit je vous attends. Les vieux ne rêvent plus, leurs livres sans sommeil, leurs pianos sont fermés. Le petit chat est mort, le muscat du dimanche ne les fait plus chanter. Les vieux ne bougent plus, leurs gestes ont trop de rides, leur monde est trop petit, du lit à la fenêtre, puis du lit au fauteuil, et puis du lit au lit. Et s'ils sortent encore, bras dessus, bras dessous, tout habillés de raide, c'est pour suivre au soleil l'enterrement d'un plus vieux, l'enterrement d'une plus laide, et le temps d'un sanglot oublié toute une heure, la pendule d'argent qui ronronne au salon, qui dit oui, qui dit non, et puis qui les attend. Les vieux ne meurent pas, ils s'endorment un jour et dorment trop longtemps. Ils se tiennent la main, ils ont peur de se perdre, ils se perdent pourtant. Et l'autre reste là, le meilleur ou le pire, le doux ou le sévère. Cela n'importe pas, celui des deux qui reste se retrouve en enfer. Vous le verrez peut-être, vous la verrez parfois en pluie et en chagrin, traverser le présent en s'excusant déjà de n'être pas plus loin. Et fuir devant vous une dernière fois la pendule d'argent qui ronronne au salon, qui dit oui, qui dit non, qui leur dit je t'attends, qui ronronne au salon, qui dit oui, qui dit non, et puis qui nous attend.
Vous êtes toujours au Théâtre de la Gamelle sur Radio Canu avec des pièces courtes de Daniel Keane. Vous allez entendre maintenant La pluie. Anna, une vieille femme. Il fut un temps où les gens me donnaient toutes sortes de choses, toutes sortes de gens. Toutes sortes de choses, des miches de pain encore toutes chaudes à la sortie du four, des biscuits moelleux saupoudrés de sucre glace, des trognons de pommes et des boîtes d'allumettes grillées, des fleurs jaunes et des papiers, paquets en papier kraft retenus par de la ficelle, des couvertures et des tasses et des bouloirs et des souliers d'enfants et des plats ébréchés et des bocaux, et des bocaux de cendres et de la pluie. Quelqu'un m'a donné la pluie un jour. Quelqu'un m'a donné la pluie. Je ne connaissais pas ces gens. Ils me donnaient des affaires avant de monter dans le train. Ils étaient pressés de monter dans le train. Il y en avait d'autres qui leur disaient de monter dans le train et qu'il fallait qu'ils se dépêchent. Fallait qu'ils se dépêchent de monter à bord du train. Le train était tellement bondé. Tellement, tellement bondé, que je ne savais pas comment tout le monde allait entrer. Ils entraient tous pourtant. Je ne sais pas comment ils entraient tous dans le train, et je ne saurais jamais comment ils faisaient. Ils le faisaient, et puis c'est tout. Et puis les portes du train se refermaient, le train partait, et on me laissait là, avec toutes ces affaires qu'on m'avait données. Ça n'en finissait pas de se passer parce qu'il n'y avait pas qu'un seul train. Il y avait des tas de trains et c'était toujours pareil. Peut-être que c'était toujours le même train qui faisait l'aller-retour, l'aller et puis le retour. Je ne sais pas où il allait. Seulement que les gens ne revenaient jamais. C'était il y a longtemps, mais c'est très clair dans mon souvenir. J'étais là. Comme ça, vous voyez? Comme ça, debout, et ils me voyaient et ils me donnaient ces affaires qu'ils avaient dans les bras. Rien n'était autorisé dans le train, rien de rien. On leur avait dit qu'ils ne pouvaient rien prendre avec eux.
Du coup, il y avait comme une confusion, vous voyez, parce qu'ils avaient apporté ces affaires avec eux, pensant qu'ils pourraient les prendre dans le train. Mais rien n'était autorisé. Je prenais toujours toutes les affaires qu'ils me donnaient, toutes ces choses ordinaires et bizarres, et souvent belles et cassées des fois. Et je les mettais dans ma maison. Et petit à petit, toutes les chambres de ma maison se sont remplies de toutes ces affaires, et il restait tout juste assez de place pour moi. Et très vite, il n'est plus resté de place du tout pour moi. Et il a fallu que je dorme dehors dans la cour. Je ne sais pas combien de temps ça a duré. Ça a duré et duré, et je me suis assez bien habituée à dormir dans la cour. J'aimais assez ça. J'étais comme un petit enfant perdu. Un petit enfant perdu dans les bois comme Adam et Ève, mais sans Adam. Il n'y a jamais eu d'Adam. Pas pour moi. Jamais. Et je m'y suis habituée à force. Je n'entrais plus dans la maison que pour travailler. Parce qu'il y avait du travail à faire. Il y avait du tri à faire, parce qu'au départ, tout était un tel fatras. Et il fallait que je trie les affaires, parce que j'ai toujours cru qu'un jour, je ne savais pas quand, mais qu'un jour, tous ces gens qui m'avaient donné des affaires, ils reviendraient. Ils rentreraient chez eux et ils voudraient récupérer toutes leurs affaires. Et je me disais que j'avais intérêt à trier tout ça pour qu'ils puissent réclamer leurs affaires sans avoir à chambouler toute la maison pour retrouver une paire de lunettes cerclées d'argent ou un certain petit paquet de linge propre ou une paire bien précise de brodequins d'enfant. Voilà. Du coup, ça en faisait du tri à faire. Mais ils ne sont jamais rentrés chez eux, bien sûr. Ils ne sont jamais rentrés chez eux. J'avais des chambres entières pleines d'une chose ou d'une autre. Mais j'avais plus d'affaires que de chambres, forcément. Du coup, il a fallu que je divise certaines des chambres. Il y avait des chambres avec deux ou trois, ou même quatre choses dedans. Une chambre en avait cinq. Une chambre avait des lunettes et des montres et des peignes et des épingles à chapeau et des photographies. Je me demandais à l'époque, et je me demande encore aujourd'hui que je suis vieille, et ça fait si longtemps de ça, mais je me demande encore pourquoi il me donnait toutes ces affaires. Je me trouvais simplement là, vous voyez, simplement plantée là où le train s'arrêtait. C'était rien qu'un champ, pas une gare, hein. Faut pas vous imaginer que c'était une gare, hein. Il n'y avait rien, rien qu'un champ. Un champ ordinaire avec rien dedans, rien qui poussait dedans à part, au bout d'un moment, ces chemins que les pas des gens creusaient dans la terre. Toutes ces centaines et ces centaines et ces centaines de gens qui coupaient à travers le champ. Rien d'autre que les chemins qu'ils creusaient, pareil à des rivières à sec menant tous au train. Et puis rien, bien sûr, après ça... Rien de l'autre côté des rails, rien. Je ne sais pas pourquoi je me tenais là, pourquoi je me tenais toujours là. Peut-être que j'étais partie marcher, je ne me souviens plus. Je me promenais comme ça toute seule, oui, me prenais comme ça, sans but. J'étais jeune, j'étais solitaire, j'aimais bien aller faire de grandes promenades. Je regardais les choses, je regardais la nature. J'adorais la nature, les animaux. J'adorais les animaux. J'adorais les oiseaux, leurs couleurs, leur énergie. J'étais solitaire, vous voyez, très seule. J'étais très seule. Bon, j'étais malheureuse, peut-être. Je ne me souviens plus. J'étais jeune et peut-être que j'étais malheureuse. Je ne sais plus ce qui me rendait malheureuse. J'étais jeune. Peut-être que c'était rien d'autre que ça. Hein. J'étais jeune et seule, et je partais faire de grandes promenades, et je me retrouvais dans des champs déserts. mais je me trouvais toujours là quand le train s'arrêtait. Et ces longues files de gens qu'on mettait dans le train. Ils défilaient devant moi et ils me donnaient des affaires. Ils les empilaient autour de moi. Quand je ne pouvais plus les prendre dans mes bras, ils les empilaient autour de moi, comme si j'étais là, exprès pour ça, comme si j'étais faite pour ça. Je suis désolée. Non, je suis vraiment désolée, mais enfin, j'étais à vous raconter une histoire et j'ai perdu tous les fils de mon histoire. Mon histoire parlait de toutes ces affaires qu'on me donnait, hein. Toutes ces affaires qui appartenaient à des gens que je ne connaissais pas et qui ne les ont jamais récupérées. Ça n'a jamais été un fardeau pour moi, vous voyez, jamais. Mais jamais un fardeau, hein. Bien sûr, il est arrivé un jour où les gens ont arrêté de me donner des affaires parce qu'il n'y avait plus de gens et plus de trains. Et tout s'est arrêté d'un coup. Il n'y avait plus rien. Plus rien que le champ. Le champ était là et les chemins creusés dans la terre et les rails qui ont rouillé si vite et l'affreuse... Comment dire ? L'affreuse et totale immobilité du champ désert qui était si terrible. Mais j'ai tout gardé exactement comme c'était et j'ai essayé de garder les affaires en ordre. J'étais tout le temps en train de faire la poussière, de nettoyer, d'essayer de conserver tout ce qu'on m'avait donné. Mais il y a des affaires qui s'effritent, qui pourrissent comme ça, jusqu'à temps qu'elles ne soient plus rien. Il n'y a plus qu'à les regarder tomber dans le rien et disparaître. Oh, comme on fait tous... comme on doit tous faire, hein. Bon, peu importe comment, peu importe à quel point on a été réel, peu importe à quel point on sent qu'on l'a été, à quel point on a été présent, à quel point on a été vivant. On a tous été vivants et on est tous vivants, tous autant qu'on est. Ben, c'est vrai. Je sais que je... c'est vrai, j'y crois. Pendant un temps, on est en vie. Je m'accroche à ça, c'est ça qui me soutient. On est en vie pendant un temps bref, un temps long. On dirait que ça ne fait pas de différence, pas pour moi, plus maintenant. Peut-être un jour, peut-être qu'un jour, ça faisait une différence. Je ne me souviens plus de ce que c'était. Qu'est-ce qu'était cette différence ? J'étais à raconter une histoire. Ah, je ne dois pas oublier ça. J'oublie, hein, vous voyez, j'oublie au tout beau milieu de tous ces souvenirs, j'oublie. Je me souviens. Une femme et un homme, tous les deux bruns comme des gitans. Elle avec un foulard bleu autour du cou et lui avec une cravate jaune dont je pourrais jurer qu'elle était en soie. Ils étaient jeunes. Ils avaient dans les 20 ans et bras dessous, ils m'ont donné une petite boîte en fer avec des pièces dedans. Bon, les pièces étaient bizarres et vieilles et noircies par les ans. Elles étaient brunies par les ans à force de passer et repasser entre tellement de mains. Je me suis toujours demandé combien de mains les avaient tenues, combien d'affaires ces pièces avaient achetées, quelles affaires elles avaient achetées et pourquoi on les avait gardées si longtemps dans cette petite boîte ronde en fer. Ça avait dû être une boîte de bonbons. Mais ce qui était écrit sur le couvercle avait été effacé à force d'être manipulé. Effacé par toutes ces années. Des années et des années et des années à abriter ces quelques pièces. Ça avait dû vouloir dire quelque chose pour les deux jeunes gens qui me l'ont donné. Mais je ne peux pas imaginer ce que c'était, voilà. Je ne peux pas. Je ne veux pas. Un jeune homme, maigre comme un sang de clou et coiffé d'une casquette qui lui mangeait le visage. Ses yeux verts, ses lèvres pleines, sa jeune barbe. Et il m'a donné son mouchoir blanc. Une femme sous son voile noir. Un voile de deuil. Je ne voyais pas son visage, seulement que ses lèvres étaient si rouges. Elle m'a donné une broche en écaille de tortue, en forme de poisson. Un long poisson miraculeux d'ambre et d'or, et mort doré comme l'automne. Elle s'est regardée pour me regarder en s'éloignant, et le talon de sa chaussure était cassé. Elle boitait. Un garçon. Un petit garçon. Un homme avec un œil de verre bleu. Il était trapu et fort et fatigué, tout courbé, tout voûté et arrondi comme un point d'interrogation. Il m'a donné une grande valise en carton. La valise était remplie de journaux jaunis, retenus par du raffia. Un garçon, un petit garçon avec une crinière de cheveux noirs. Une petite fille, toute seule. Je lui ai demandé pourquoi elle était toute seule, elle était si jeune. Elle m'a donné un panier de plumes et elle ne m'a pas répondu. Des plumes de corneille et de moineau et de tourterelle et les toutes petites plumes, vert acidulé d'un pinson. Pourquoi t'es toute seule? Et elle n'a pas répondu. Elle m'a donné les plumes de la queue d'une hirondelle. Les plumes blanches d'un cygne et de tourterelles grises et des tourterelles, encore des tourterelles. Des cheveux noirs, une crinière de cheveux noirs comme du charbon. Un petit garçon, il m'a donné. Une femme, un homme, une fille, un vieil homme. Oh, une toute petite femme, un homme grand. Un musicien m'a donné un étui à violon. L'étui était vide. Une vieille femme, un homme avec deux paletots, un homme avec trois cuillères en argent. Une femme avec une bouche triste. Un jeune homme avec une main mutilée. Et des hommes et des femmes et des enfants. Ils m'ont donné des affaires. Je les gardais et elles remplissaient ma maison. Un petit garçon avec une crinière de cheveux noirs comme du charbon m'a donné un flacon. Un petit flacon. Un vieux flacon ambré de pharmacie avec une étiquette déchirée et une boule de papier en guise de bouchon. C'est la pluie, il a dit. La pluie. Tombée du toit de ma maison. Elle est où ta maison? Je lui ai demandé. Il a pointé du doigt. Il a pointé du doigt et il a dit tout là-bas. J'ai regardé. J'ai regardé et tout ce que je pouvais voir, c'était une longue file de gens. Des centaines et des centaines de gens qui coupaient par le champ désert. Sa maison était tout là-bas quelque part, de là où ils s'en venaient tous. J'ai attrapé la pluie dans un plat, il a dit, et je l'ai mise dans cette bouteille. La pluie appartient à Dieu, je lui ai gardée, il a dit. Tu veux bien me la garder? Oui, j'ai dit, je vais te la garder. En attendant que je revienne, il a dit. Parmi les choses qui se perdaient, parmi toutes les choses qui tombaient en morceaux dans le rien, au fil de ces longues années, la pluie. Tu reviendras? J'ai dit. Oui, il a dit. Je reviendrai. Chercher la pluie du bon Dieu.
J'ai eu tort, je suis revenue dans cette ville au loin perdue où j'avais passé mon enfance. J'ai eu tort, j'ai voulu revoir le coteau glisser le soir, bleu et gris, ombre de silence. Et j'ai retrouvé comme avant, longtemps après, le coteau, l'arbre se dressant, comme au passé. J'ai marché les tempes brûlantes, croyant étouffées sous mes pas. Les voix du passé qui nous hantent, et reviennent sonner le glas. Et je me suis couchée sous l'ombre, et c'était les mêmes odeurs. J'ai laissé couler mes pleurs, mes pleurs. J'ai mis mon dos nu à l'écorce, l'arbre m'a redonné des forces, tout comme au temps de mon enfance. Et longtemps j'ai fermé les yeux, je crois que j'ai prié un peu, je retrouvais mon innocence. Avant que le soir ne se pose, j'ai voulu voir la maison fleurie sous les roses. J'ai voulu voir le jardin où nos cris d'enfants jaillissaient comme un source clair. Jean-Claude des Régine et puis Jean, tout redevenait comme hier. Le parfum lourd des songes rouges, les dahlias fauves dans l'allée, le puits tout, j'ai tout retrouvé. Hélas, la guerre nous avait jetés là, d'autres furent moins heureux, je crois, autant jolis de leur enfance. La guerre nous avait jetés là, nous vivions comme hors la loi, et j'aimais cela quand j'y pense. Oh mes printemps, oh mes soleils, oh mes sales années perdues, oh mes 15 ans, mes mères. Le septembre et l'odeur des murs écrasés, c'est fou tout, j'ai tout retrouvé. Hélas, il ne faut jamais revenir.
Vous êtes toujours au Théâtre de la Gamelle sur Radio Canu 102.2, votre émission de théâtre radiophonique en direct tous les vendredis de 13h à 14h. Bien, on a un petit peu dépassé, mais on va quand même poser la question, est-ce que vous avez des actus ou simplement des infos sur des spectacles à venir, mesdemoiselles ?
Rapidement, à la MJC de Saint-Just, vendredi soir prochain.
C'était ton
le
micro.
23 et le 24, mes élèves adolescents et pré-ados jouent plusieurs spectacles. Le vendredi soir, c'est un spectacle qui parle de la trisomie. C'est un enfant, un adolescent trisomique qui se questionne sur ses possibilités dans son avenir, que ce soit professionnel ou amoureux.
Et rappelle-nous d'ailleurs le titre de cette pièce.
Qui s'appelle Yvon Kader, des oreilles à la lune. Mmh. Et donc ce sera joué à la MJC de Saint-Just le vendredi soir à 18h30 et le samedi 24 à 18h. Et si jamais le samedi 24 vous êtes curieux, vous avez envie de voir des jeunes un peu sur scène, il y a deux pièces qui vont être jouées avant. L'une qui s'appelle Ravi, qui est une réécriture de la chef de Monsieur Seguin sur la notion de liberté.
Et qui a l'air super rigolote.
Ouais, qui l'est. Et la seconde, qui est une pièce que nous avons écrite avec mes élèves, qui s'appelle Triclogliceróm U3. Et il ça s'agit d'une élection de Miss Maître du Monde dans un hôpital psychiatrique.
Alléchant programme donc pour ces spectacles amateurs à la MJC Saint-Just le week-end prochain.
Voilà, c'est tout. Sinon, en termes d'actu, il y a un truc.
Ah.
Festival des Invites à Villeurbanne. Oui. Il y a un spectacle que moi j'avais vu à Chalon, qui est un spectacle du Cirque du Rouage. Je crois que c'est jeudi soir à 21h15 devant l'hôtel de ville de Villeurbanne, donc au bout de l'avenue Henri Barbus. Le spectacle s'appelle Sodad et il est très 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 beau. C'est un spectacle de cirque funambule. Ils ont une sorte de structure avec des grosses roues qui font tourner, et en fait ça fait comme une chaîne de vélo quoi, qui tourne sans fin et sur laquelle ils font des acrobaties. Et en tout cas moi à Chalon j'avais vraiment adoré, donc c'était l'occasion de passer au Festival des Invites. Intéressez-vous à ce spectacle-là en particulier. Et puis le festival dure 4 jours.
Il dure 4 jours, il est gratuit. Et faut en profiter à bloc.
Carrément. Okay.
En tout cas, je vais remercier à nouveau donc Amandine Vincent et Caroline Chao qui ont lu donc la première pièce que vous avez entendue, Marie et Marguerite.
Marguerite.
Voilà. On remercie également Anaïs Sintas qui était à la technique et au Didascali en première partie d'émission et qui est partie à Rome, la vilaine. Donc merci en tout cas à elle et bon voyage. Et puis pour une fois, je me remercie aussi moi-même, tiens, pour la préparation de l'émission, l'animation. Et puis qui pour avoir lu effectivement aussi le monologue La pluie. Voilà. Et ben on vous souhaite à toutes et à tous une excellente fin de semaine, un super week-end et on vous dit à la semaine prochaine.
À vendredi.
À vendredi.
Il était sur son char.
Amateur.
Il n'y a pas d'armes. L'art combat ou sert la cause prolétarienne.
Plein d'inardeurs, snobles.
Journal vivant, revue politique.
Construction, obéir à sa voix.
Ah oui, c'est un malade, hein. C'est un vrai dingue. Il est capable de tout faire. Hein.
Imiter son silence.